Bonjour, Reino. Alors aujourd'hui, je voudrais vous lire quelque chose que je n'ai pas encore lu. C'est au chapitre 14, le secret de l'aventure de la conscience, Sri Aurobindo, ou l'aventure de la conscience, écrit par Sat Prem. Alors, le secret. Alors, le chapitre aussi, le sous-chapitre du secret s'appelle « La moitié obscure de la vérité ». Maintenant, nous approchons. C'est par expérience et par une expérience positive que le chercheur a commencé. Il s'est mis en route parce qu'il avait besoin d'autre chose. Il a fait des essais de silence mental. Il s'est aperçu que le seul fait de son effort provoquait une réponse. Il a senti une force qui descendait, une vibration nouvelle en lui, qui faisait la vie plus claire, plus vivante. Peut-être même a-t-il eu l'expérience d'une déchirure soudaine, des limites et d'émerger à une autre altitude. De mille façons, le signe peut venir indiquant qu'un nouveau rythme s'installe. Puis soudain, après ce départ en flèche, tout s'est voilé, comme s'il avait rêvé ou qu'il s'était laissé entraîner par un enthousiasme à ses périls après tout. Quelque chose est en train de se venger en lui par une levée de scepticisme, de dégoût et de révolte. Et ce sera le deuxième signe, peut-être le vrai signe, qu'il est en train de progresser et qu'il s'empoigne avec des réalités de sa nature, ou plutôt que la force descendante a commencé son travail de barattage. Le progrès, en définitive, ne consiste pas tant à s'élever qu'à décanter tout ce qui encombre. Quand on est clair, tout est là, et le chercheur découvre ses multiples encombrements. On a souvent l'impression, sur la voie du yoga intégral, de s'être mis en route pour le meilleur et découvrir le pire, d'avoir cherché la paix et la lumière, et de découvrir la guerre. En fait, c'est une bataille. Il ne faut pas se le cacher. Tant que l'on nage avec le courant, on peut se croire bien gentil, bien propre, bien intentionné. Dès que l'on renverse l'allure, tout résiste. On comprend alors tangiblement les énormes forces d'abrutissement qui pèsent sur les hommes. Il faut avoir essayé d'en sortir pour voir. Et quand le chercheur aura eu une première ouverture décisive sur le haut, qu'il aura vu la lumière, il sentira presque simultanément un coup de boutoir en bas, comme si quelqu'un en lui avait mal. Il saura alors ce que Sri Aurobindo entendait par cette obscurité blessée qui proteste contre la lumière. Un extrait de la synthèse des yogas. Et il aura appris sa première leçon. On ne peut pas le faire un pas en haut sans faire un pas en bas. Au lieu de prendre ces incurvations brutales comme une sorte de fatalité, le chercheur en fera la base de son travail. Ce double mouvement d'ascension et de descente, constitue le processus fondamental du yoga intégral. À chaque hauteur conquise, nous devons revenir sur nos pas pour faire descendre l'illumination et le pouvoir nouveau dans le mouvement mortel d'en bas. Synthèse des yogas. C'est à ce prix seulement que la vie se transforme. Sinon, nous restons à poétiser et à spiritualiser sur les sommets, tandis qu'en dessous, la vieille vie chaote. Pratiquement, le mouvement de descente ne s'accomplit pas par une décision arbitraire du mental. Moins s'il s'en mêle, mieux cela vaut. Et d'ailleurs, on se demande bien comment le mental pourrait descendre assis là, derrière son petit bureau. C'est la conscience force éveillée et individualisée en nous qui fait tout le travail spontanément. Dès que nous avons touché une certaine intensité de conscience ou de lumière, automatiquement elle exerce une pression sur le reste de la nature et fait jaillir les obscurités ou les résistances correspondantes. Tout se passe comme si l'on introduisait brutalement un excès d'oxygène dans les bas-fonds. Quelques murènes et barbillons divers se débattent anxieusement ou même éclatent. C'est un étrange renversement de conscience, comme si l'on passait d'une chambre illuminée à la même chambre obscure, d'une chambre joyeuse à la même chambre douloureuse. Tout est semblable et tout est changé. Comme si c'était la même force, la même intensité vibratoire, peut-être même une vibration identique, mais affectée soudain d'un coefficient négatif. On perçoit alors, presque à la trace, comment l'amour, par exemple, se change en haine, et le pur en l'impur, tout est le même, mais à l'envers. Et tant que nos étapes psychologiques seront simplement l'envers d'un autre et notre bien l'envers du mal, peut-être faudra-t-il dire l'endroit du mal. Il n'y a pas d'espoir que la vie se transforme. Il faut radicalement autre chose, une autre conscience. Tous nos poètes et nos esprits créateurs ont particulièrement connu ces écarts de conscience, en même temps que ces illuminations. Rimbaud avait accès à d'étranges domaines qui lui faisaient dresser des épouvantes. Lui aussi obéissait à la loi du renversement obscur. Mais le chercheur intégral, au lieu d'être ballotté d'un bout à l'autre inconsciemment et de monter sans savoir comment ou descendre sans le vouloir, opéra méthodiquement, consciemment, sans perdre son équilibre et surtout en s'abandonnant avec une confiance croissante en cette conscience-force qui ne suscite jamais plus de résistance qu'il ne peut en supporter et ne dévoile jamais plus de lumière qu'il ne peut en contenir. Après avoir vécu assez longtemps entre deux crises, nous finissons par nous apercevoir d'une méthode dans l'action de la force et que chaque fois que nous semblons quitter la courbe ascendante ou même perdre une réalisation acquise, c'est pour retrouver au bout la même réalisation, mais à un degré immédiatement au-dessus, élargi, enrichi de tout le reste de notre domaine qui, par notre chute précisément, est venu s'intégrer à une lumière nouvelle. Si nous n'étions pas tombés, ce bas ne serait jamais venu s'adjoindre à notre haut. Peut-être collectivement est-ce un processus identique qui a mené la chute d'Athènes afin que d'anciens barbares, eux aussi, puissent un jour comprendre Platon. La progression du yoga intégral ne décrit pas une ligne droite qui va se perdre de plus en plus haut sur une pointe de plus en plus ténue, mais en spirale, dit Sri Aurobindo, qui lentement, méthodiquement, annexe tous les niveaux de notre être dans une ouverture de plus en plus vaste sur une base de plus en plus profonde. Et non seulement nous distinguerons une méthode derrière cette force ou cette conscience-force plutôt, mais des cycles réguliers et un rythme aussi certain que celui des marées et des lunes, plus on progresse, plus les cycles deviennent vastes, plus ils se relient à un mouvement cosmique, jusqu'au jour où nous pouvons percevoir dans nos propres descentes des descentes périodiques de la conscience terrestre et dans nos propres difficultés, tous les remous de la terre qui résistent et se révoltent. Tout sera intimement lié finalement, que l'on pourra lire dans les petites choses, dans les plus infimes accidents de la vie quotidienne et les objets que l'on touche. Le signe des dépressions plus vastes qui vont passer sur les hommes et les faire descendre et monter, eux aussi, sur la même crête évolutive. Alors, nous verrons que nous sommes infailliblement conduits vers un but, que tout a un sens, même les choses les plus minuscules. Pas un détail ne bouge sans que tout bouge. Et que nous sommes en route pour une aventure plus grande que nous ne l'avons jamais pensée. I deposit this in the feet of Sri Aurobindo Mother. Et ce texte a été écrit par Satprem. C'est beau, hein? Voilà, notre demi-lumière. Mais on a une demi-lumière, mais on a aussi l'étincelle divine qui brûle tout le temps pour clarifier notre obscurité. Pour moi, voilà.
Ça donne du courage quand on descend, qu'en fait il y a un travail qui se fait.
Exactement, Marine.
Merci, Gangaraj.
Merci, Marine.